Comment se fait-il qu'il y ait une confédération des nations comme l'ONU et qu'elle n'ait pas la possibilité d'imposer une solution à des conflits du type les Kurdes, la guerre de ce que vous voudrez. Et puis en particulier ce conflit en plein cœur de l'Europe qui est extrêmement inquiétant parce que ça signifie que l'ONU est impuissante à empêcher des guerres même en Europe. Alors vous voyez où ça va. Il apparaît là un problème qui m'a fait dire finalement que l'humanité semble être donnée un problème très difficile à résoudre. La coexistence des personnes, qu'on appelle en culture contemporaine la coexistence pacifique, eh bien, semble-t-il, c'est à la hauteur de la difficulté de ce problème qu'il y a un sursis donné par compensation. Pour que la justice soit fondée, préservée, il est nécessaire qu'un sursis soit donné pour que, en fin de compte, une solution puisse être possible. Référez-vous au schéma des quatre équations que je vous avais donné la dernière fois. On y reviendra par la suite quand on arrivera à la famille d'Abraham. Bien. Alors, nous allons étudier très rapidement un de ces sursis. Vous l'avez à la fin du chapitre 4, à partir du verset 25. 25 du chapitre 4. Voilà. Alors, si vous avez le verset sous les yeux, on va le lire. Tous ces versets que je vous donne en traduction, réétudiez-les. Et je crois que la meilleure des choses pour les savoir, c'est de les apprendre par cœur. Si vous avez deux, trois versets chaque fois, pour les apprendre par cœur, c'est pas beaucoup. Tant que vous n'en apprendrez pas par cœur, vous ne saurez pas. Et pourquoi je dis par cœur? Pour que le verset vous en rappelez exactement comme il est écrit. Si vous changez une lettre, c'est un autre verset. Très souvent, quand je pose une question, on me répond approximativement. Et habituez-vous à cela, il faut apprendre les choses exactement comme elles sont. Et encore une fois, la meilleure des façons, c'est d'apprendre par cœur. Alors vous êtes au verset 25. Lorsque ce sursis des sept générations s'est achevé, alors en principe l'humanité était condamnée, et normalement la mort de Caïn aurait dû sonner le glas de cette civilisation-là, le déluge aurait dû arriver tout de suite. C'est une civilisation qui est arrivée à saturation de violence. Et pourtant, on voit que d'autres sursis vont être donnés. Alors le suivant, vous l'avez à partir du verset 25, suivez bien. Vayada Adam Rod et Tishto. Et Adam connut encore sa femme, Batelet Ben, elle enfanta un fils, Vatikra et Shemo Shet, et elle nomma son nom Shet. Vous rappelez ce que j'avais appris à propos de la naissance de Caïn. La formule pour Caïn, c'était Batelet et Caïn, elle enfanta Caïn. Comme si c'est le seul nom qu'il peut avoir, parce que c'est son nom d'essence. Tandis que là, elle enfanta un fils. Elle lui donne une destination, un projet d'identité, un programme. Et elle le nomme Chet. Le verset va expliquer. D'abord, la racine du mot Chet. Cette racine existe en hébreu et ça désigne le fait de stabiliser, d'affermir sur un socle, d'être stable. Chet, chat, shit. Et elle explique qui chat li Elohim zela acher. Car Dieu m'a stabilisé une autre postérité, Tachat Hevel, à la place de Hevel, qui harago Caïn, parce que Caïn l'avait tué. Donc ce verset désigne tout de suite le projet d'identité de Chet. Remplacer Abel, mais un remplaçant d'Abel inassassinable. Il est solide, il est inamovible. Chat. Et nous verrons, vous commencerez à explorer pour la prochaine fois le chapitre 5, qu'il va y avoir une deuxième lignée humaine, tout à fait différente de celle de Caïn, parallèle à celle de Caïn. Et cette lignée humaine va avoir une fonction de rédemption de la civilisation de Caïn. L'humanité, c'est l'humanité de Caïn. Mais il y a une lignée humaine qui apparaît avec Chet, qui est suscitée un peu déjà avant la lettre, dans le sens de société de prêtres pour transfigurer, sauver la civilisation de Caïn, et nous verrons qu'il y a échec, ça amènera au déluge. Mais je voulais tout de suite vous indiquer cela, pour que vous compreniez le développement futur de l'histoire de l'humanité. Il y avait à l'origine deux manières d'être homme, Caïn et Abel. Abel a été supprimé. Alors la civilisation fondée sur la suppression d'autrui, sur la suppression d'Abel, aboutit à l'échec. Et bien Dieu suscite un autre sursis, du donnant même du génie humain. Le premier homme connaît de nouveau sa femme, une nouvelle lignée humaine d'un tout autre profil d'identité de celle de Caïn va apparaître. Vous allez lire vous-même le chapitre 5 en survol, mais surtout étudier les premiers versets, et vous comprendrez pourquoi il y a une différence entre, je vous interrogerai la prochaine fois, entre la lignée de Seth et la lignée de Caïn. D'ailleurs, vous remarquerez que certains noms de la lignée de Seth ressemblent aux noms de la lignée de Caïn. Rassemblez toutes ces indications et on l'étudiera la prochaine fois. Je vous dirai quand c'est la prochaine fois pour ce cours. Alors, on revient un peu en arrière. C'est que, après le sursis donné à Caïn, prenez au verset 18, au verset 17, nous allons voir une première tentative de remplacer Abel. Suivez bien, parce que ce que nous allons apprendre là maintenant est important pour la suite. Je traduis littéralement, et encore une fois, ce verset, qui est le verset 17, Yudzaïn, essayez de l'apprendre par cœur pour la prochaine fois. Vayedar, Caïn et Ishto, et Caïn connut sa femme. Vatahar, elle conçut, vous voyez de nouveau les mêmes formules, elle conçut, donc il y a une modification d'identité qui est annoncée. Vaikra, Esira, Vatelel et Hanor, et un enfant Tahanor. Là encore, on voit que l'enfant qui va naître de Caïn a son nom d'essence avec lui. Vous voyez, la formule n'est pas un enfant à un fils et elle nomma son nom Hanor, mais l'enfant à Hanor. À quelle racine se rattache Hanor? Une racine que vous connaissez. Rino. Ça veut dire quoi le Rino? Éducation. Donc Hanor a un peu le sens de l'éducateur. Vous voyez ce qui se passe? L'histoire va susciter à Abel une première forme de remplaçant. C'est-à-dire le frère, en tant qu'éducateur, a échoué. Le frère a disparu. Alors c'est peut-être le fils qui va prendre ce rôle-là. Là, il y a un moment extrêmement important. La relation d'autrui à autrui, de frère à frère, est trop difficile, semble-t-il. Alors Dieu va susciter une relation du fils au père qui sera plus facile à résoudre que celle du frère au frère. C'est le frère qui aurait dû être le berger, l'éducateur. Il n'a pas pu. Alors peut-être le fils sera l'éducateur. Vous suivez bien ? On va voir l'échec. Comment tout de suite ça va tourner à la catastrophe. Mais réfléchissez bien à ça. Le frère ne peut pas sauver le frère. Peut-être que le fils pourra sauver le père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sentiments entre un père et un fils sont plus facilement de nature fraternelle qu'entre un frère et un frère. Effectivement, c'est vrai en sensibilité hébraïque. Dans la sensibilité grecque, on va s'apercevoir que c'est tout à fait l'opposé. Est-ce que vous connaissez, vous avez sûrement entendu parler du complexe d'Édipe. Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Édipe? L'histoire d'Édipe, c'est un fils qui tue son père. Vous voyez, c'est l'échec de ce qui se met en place là. Alors qu'on verra plus tard, vous apprendrez d'ailleurs dans vos études, que pour le Talmud, s'il y a une personne au monde qu'un homme, avec lequel un homme n'entre pas en rivalité, c'est son fils. Mais, et voilà que la civilisation grecque dévoile autre chose. C'est le fils qui est en rivalité avec le père. L'objet de la rivalité étant la mère, d'ailleurs. Alors, ça va dépendre de la mère. Comment sont les rapports entre le père et les fils? Tout ça, on va apprendre dans l'histoire des patriarches. C'est pourquoi je vous mettais en garde à l'avance. Ne cherchez pas à savoir comment ça fonctionne dans la famille de la cousine. Okay, en tout cas, pour revenir au sujet. Vous voyez comment le verset est très, très précis. Vayedar Caïn et Ishto, Vatahar, Vatelel et Hanor, et un enfant à Hanor. Donc on peut espérer que Hanor est un sursis qui va peut-être sauver Caïn. Or, Caïn a une initiative qui aboutit à la catastrophe. Suivez bien. Vayi Boneir, et voilà que Caïn construit une ville. Vaikra Shemaïr, Keshet, et il nomma le nom de la ville comme le nom de son fils Hanor. Où est la catastrophe? Je reprends la traduction. pour vous donner le temps de réfléchir. Et voilà que quand Hanoch est né, Caïn construit une ville et il nomme le nom de la ville comme le nom de son fils. Où est l'échec? On pourrait dire à première vue, il a voulu honorer son fils en donnant à la ville le nom de son fils. On peut parler de foi, on peut parler de ça la dernière fois. Vous vous rappelez? Le fait d'attribuer le nom de la personne à une ville.
Il a rendu
qui objet? Son fils. Très bien. Il a pris le nom de la personne et il le donne à la cité. La catastrophe, c'est plus l'homme qui est nommé, c'est la ville. Alors quel est le problème? Le problème n'est plus la relation des hommes entre eux, ce qui est la morale. Le problème, c'est l'administration de la cité. L'homme devient un numéro d'ordre de carte d'identité dans un fichier. Vous avez lu ces romans de science-fiction qui nous montrent le meilleur des mondes, par exemple, où le monde devient fonctionnel, où le monde devient impersonnel, et où c'est la fin de la civilisation humaine. Vous voyez, ça s'annonce là. On donne à la ville le nom de l'homme. Je vais vous montrer comment ça se passe dans les peuples modernes. Le seul cas particulier, à l'origine, dans toutes les traditions, dans l'histoire de tous les peuples, c'est l'homme qui était nommé, pas le pays. Et il n'y a qu'en Israël que c'est resté. Je vais vous expliquer ça. Je vais prendre le cas de la France. À l'origine, il y avait une tribu qui s'appelait les Francs. On a pris le nom aux hommes, on l'a donné au pays. Et maintenant, il n'y a plus que des Français. Vous voyez, de Francs, ça passe à la France. Et alors, la France, dans l'état civil, il y a le cadastre des Français. Et vous voyez comment ça passe? Le nom est pris à l'homme et donné à la ville, au pays, à la cité. Pourquoi Israël est un cas complètement différent? C'est le peuple qui est nommé Israël, c'est pas le pays. Le pays s'appelle Eret Israël. La terre, le pays d'Israël. Mais Israël, c'est le peuple. Est-ce que c'est clair la différence? Faites bien attention à ça. Oui, je vais vous donner une phrase de De Gaulle qui vraiment type bien ce sujet. C'est une phrase célèbre que tout le monde connaît. Les mémoires de De Gaulle commencent comme ça. Je me suis toujours fait une certaine idée de la France et les Français. Il y avait un mépris chez les dirigeants des peuples pour leurs sujets, alors qu'ils avaient un idéal de leur cité. Vous voyez, la catastrophe. Et d'ailleurs, après De Gaulle, il y avait Pompidou. Et vous rappelez comment Pompidou nommait les Français? Vous êtes de culture française, non? Si peu. Il les appelait des veaux. Vous vous rappelez pas de ça? Bon. Alors, oui, mais c'est vrai un peu dans toutes les sociétés. Lorsque la société devient fonctionnelle, les hommes sont méprisés. Et je ne veux pas vous donner des analogies dans la société israélienne, mais c'est bolette avec les dirigeants actuels. Je reviens au sujet. Vous voyez, la catastrophe qui rend stérile ce deuxième sursis. Le fils aurait pu être le support de la dignité humaine. L'homme n'arrive pas à reconnaître autrui dans son frère, mais peut-être il le reconnaîtra dans son fils, c'est plus facile. Catastrophe. C'est le nom est pris à l'homme, il est donné à la ville, alors la société va devenir fonctionnelle. Vous allez lire vous-même le verset qui suit en Shiur Lebaïd, et vous verrez effectivement que la Torah ne va plus parler que des métiers et pas des personnes qui sont à la tête, enfin qui sont en question dans la société humaine. Vous pourrez d'ailleurs réfléchir à la situation des sociétés modernes où les fonctions priment la dignité des individus. Alors il y a énormément d'institutions qui essayent de contrebalancer, qui essayent de réparer cela, mais on s'aperçoit que c'est, semble-t-il encore une fois, un problème pratiquement insoluble. En particulier, le syndicalisme a essayé de fédérer les hommes devenus objets pour la reconquête des droits de l'homme. Et si vous suivez toutes les affaires politiques qu'il y a dans les grandes sociétés contemporaines, vous verrez que c'est ce problème-là que la Torah a posé. C'est-à-dire, il y a d'un côté le problème de la dignité de la personne, de l'autre côté le problème des intérêts de la cité. Et il y a conflit. Alors oui, ce passage. Qu'est-ce que tu veux demander?
J'ai une question. On a vu que bon, Cain a fait...
Quelle est la question? Pose la question.
Étant donné qu'il n'y avait pas de Torah à l'époque, il n'y avait pas les grandes Torah, et donc c'était difficile pour les personnages de l'époque de se reprendre de leur faute.
Pour moi, je ne sais pas si tu as très bien fait de poser ta question. Je ne sais pas si tu as remarqué, je n'ai jamais parlé de Torah. Là. La Torah, c'est beaucoup plus tard. Oui, il y a la conscience humaine. Et il faut que vous sachiez ceci, la Torah n'a été donnée qu'à la famille humaine qui a d'abord résolu le problème moral. C'est dans la famille humaine qui a résolu le problème moral que la Torah a été révélée. Ne confondez pas ça. Vous oubliez toujours qu'il y a une préface à la Torah. La Torah comme loi nous raconte l'histoire de l'humanité jusqu'à ce qu'on aboutisse à une famille humaine, la famille d'Abraham, où le problème moral va trouver sa solution, alors la Torah est donnée. Pour le moment, on n'est pas sur un problème de Torah, mais sur un problème de morale. Et c'est très, très bien que tu aies posé ta question. Je l'attendais plus tard, mais enfin, on anticipe un peu. Je vous en ai la phrase que dans le Talmud sur ce sujet, mais on attend d'y revenir. Kadma dereferet la Torah alpaim shana. Le dereferet, c'est-à-dire l'effort pour arriver à la moralité, a précédé la Torah de 2000 ans. Il a fallu 2000 ans pour résoudre le problème moral, et la Torah n'a été révélée qu'à ceux qui ont résolu le problème moral. Vous réfléchirez vous-même aux conséquences de ce que je viens de dire. Si la Torah est maniée par des gens qui n'ont pas de morale, c'est une catastrophe. Ça devient une idolâtrie. La Torah elle-même. Okay. D'ailleurs, c'est ce que la Bible va nous raconter. Ce que énormément de gens ont fait de la Torah l'idolâtrie absolue parce qu'ils n'avaient pas la morale. Et je venais tout de suite, c'est un sujet important, hein, c'est une parenthèse qu'on ouvre à travers sa question. Et d'ailleurs, nous vivons ce problème-là. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'opposer à un certain nombre de pratiques parce que ce sont des pratiques d'hommes religieux, alors qu'on sait très bien qu'il manque la morale, mais parce qu'on croit que la religion imprime la morale. Mais la religion sans la morale, c'est pire que pas de religion du tout. C'est l'idolâtrie. Sachez bien ça. Je pense que... Chut, laisse-moi finir de parler. On n'interrompt jamais quelqu'un qui parle. Même si c'est toi. Alors, tu vois, tu m'as fait oublier ce que j'étais en train de penser de dire. Mais je vais vous donner tout de suite une définition que vous allez retenir. Avant de faire une mitzvah, on dit une bracha. Quelle bracha on dit? Avant de faire une mitzvah, on dit une bracha. Yafé. Asher kideshanu ve mitzvotav ve tzivanu. Ça veut dire qu'il nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné de... C'est-à-dire l'objet de la Torah, c'est la sainteté. Ce n'est pas la morale. Il faut d'abord que la morale soit acquise pour que la sainteté ait une base. La sainteté sans la morale, c'est le sacré, c'est-à-dire les idolâtries. Faites bien attention à ça. La grande différence entre les prophètes d'Israël et quoi que ce soit d'autre en dehors d'Israël, c'est qu'en Israël, la religion est basée sur la morale, alors qu'ailleurs, c'est séparé. Et quand chez les Juifs, la religion et la morale se séparent, c'est plus le judaïsme. Même si c'est des gens très barbus, très pieux, très... Vous avez compris ce que je veux dire. Méfiez-vous de ça. Mais vous allez l'apprendre, parce que, comme disait Descartes, il disait « je pense, donc je suis ». Descartes n'a jamais dit « il pense, donc je suis ». Quand vous penserez ça avec votre tête, vous commencerez à penser. Mais pour ça, il faut apprendre, c'est clair. Alors voilà ce qu'il faut découvrir. La Torah nous raconte une histoire de 2000 ans avant qu'apparaisse la famille d'Abraham. Et pourquoi c'est dans la famille d'Abraham que la Torah est révélée? Parce que c'est dans la famille d'Abraham que le problème moral a été résolu. Voilà, tu raccroches ça à ta question. C'est clair? Bon. Alors, où est-ce que j'étais? En retard. Et voilà ce qui se passe en tout cas au niveau du verset 17. Vous avez une simple indication au niveau de la langue. Prenons le verset 18. Après cette catastrophe où Caïn a pris le nom de l'homme et l'a donné à la ville, il y a un enfant, un fils qui va être né à Hanor. Et comment il s'appelle? Verset 18. Vaïvale la Hanor et Aïrad. Vous voyez le mot de Aïrad? Quel mot vous trouvez dans Irad? Irad, c'est le citadin, le citoyen. Un numéro d'ordre dans le fichier administratif de la mairie. Vous voyez ce qui se passe? En hébreu, c'est très clair. Et puisque le nom a été pris à Hanor et donné à la ville, alors le fils de Hanor, c'est Irad, le citoyen, dans le sens, il y a un sens noble au mot de citoyen. Mais je cherche en français comment on peut dire ça. Oui, le membre de la cité. C'est-à-dire que quand vous allez n'importe où dans une administration, vous dites, je m'appelle comme ça, on dit, quel numéro, montre-moi la carte d'identité, quel numéro tu es, on voit un fichier. Vous voyez, la dignité humaine aplatie complètement. On ne s'occupe pas de votre nom, quelle est la personne qui a derrière le nom, on s'occupe de vos droits et devoirs en tant que numéro dans un fichier. Vous voyez, la morale se transforme en sociologie, en administration. Cette catastrophe-là. Bien. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Je vais vous montrer déjà un exemple de ce que j'ai déjà indiqué un peu, et puis ça se branche un peu sur ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est que nous allons retrouver toutes ces situations humaines dans la famille d'Abraham, mais dans la perspective d'une solution. Alors que dans ce récit de l'histoire universelle, on voit les problèmes et que ça aboutit toujours à des impasses sans solution. À partir du moment où une société devient fonctionnelle, c'est la fin de la dignité humaine. Comment récupérer ça? Alors vous allez prendre le chapitre 34, je pense. D'ailleurs, c'est un chapitre qu'on a lu Shabbat dernier à la paracha, à la Torah. La meute d'Alot. Je vais voir si c'est bien ce chapitre-là. Non. Une minute. Je crois que je me suis trompé de numéro. C'est la paracha de Vaishla. C'est chapitre 31, je pense. 33, pas 33. Voilà. Chapitre 33. La meute Gimel. Je vais vous lire deux ou trois versets du début du chapitre et vous expliquer le sujet. Vous y réfléchirez bien pour la prochaine fois. Voilà, on nous raconte, on est beaucoup plus loin dans l'histoire, on nous raconte un épisode de l'histoire de Jacob. Jacob, je le dis pour ceux qui se rappellent déjà de ses péripéties, Jacob, tu veux ouvrir un peu là? Il fait vraiment froid dehors. Jacob était en exil chez Laban, à la suite de la querelle avec Ésaü. Ésaü, c'est de nouveau les frères jumeaux qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est Caïn et Abel, mais dans la famille d'Abraham. Alors là, on voit un progrès, Ésaü n'arrive pas à tuer Jacob. Mais Jacob est obligé de s'enfuir, il est en exil chez Laban, son oncle. Et puis, il reste là-bas 20 ans, il a ses enfants, presque tous ses enfants. Quand il revient, il y a 11 garçons qui sont déjà nés, et Benjamin est en route, il va naître quand Jacob rentre dans le pays, revient dans le pays. Donc il y a 12 garçons, d'après le récit, et une fille, Dina. Or, nous savons par tradition, mais vous l'apprendrez par la suite plus en détail, qu'il faut qu'il y ait 13 tribus. Je vous ai donné une indication à l'avance, la valeur numérique du mot 1 en hébreu, c'est la valeur de 13. Echad, Aleph, Chet, Dalet, ça fait 13. Il y a 13 dimensions de l'unité. Alors, voilà ce qui se passe. Le peuple d'Israël s'est constitué dans l'exil de Jacob chez Laban, mais il manque un chef de tribu. Donc, le problème que Jacob a à résoudre, c'est de trouver un gendre, un mari pour Dina. Et tout de suite, on s'aperçoit, c'est de ça que la Torah parle. Dès que Jacob rentre de son exil, alors, chapitre 34, suivez avec moi. Vatetse Dina, Batléa, et Dina, fille de Léa, Asher Yalda Léa Akov, que Léa avait enfanté à Jacob. Vous n'avez pas le chapitre sous les yeux? Alors je viens de parler 10 minutes et vous n'avez pas eu le temps de le trouver. La meute d'Alot. Ah, je vous avais dit 33. Alors tournez la page. C'était bien 34, quoi. Alors, la meute d'Alot, Vatetse Dina, Batléa, Asher Yalda Léa Akov, et Dina, fille de Léa, que Léa avait enfanté à Jacob, tous ces détails sont importants, on les étudiera par la suite. Vatetse, elle sortit l'Irot du Notaret pour aller voir les filles du pays. Vayarota Shrem ben Hamor, et le prince de la ville, qui s'appelait Shrem, fils de Hamor, l'a vu. Le Shrem ben Hamor Achivi, il faisait partie du peuple des Chivéens, des Chivites, Nessi Aret, il était le prince du pays. Vaikahota, il l'a pris, Vaishkavota Vayanea, et il l'a violé, il l'a violenté. Par la suite, on s'aperçoit, je ne traduis pas en détail, qu'il a aimé Dina aussi l'a aimé, et le peuple de ce Shrem ben Hamor propose mariage, et puis les frères de Dina refusent. Vous lirez tout le chapitre. Mais je reviens sur un point important. On s'aperçoit que cet épisode se passe dans une ville qui s'appelle Shrem. Shrem, c'est Shichem en français. Shrem, c'est Naplouse des Arabes, parce que c'est les Romains qui ont appelé Shrem Naplouse. Les Arabes l'appellent Nablouse parce qu'ils ne savent pas prononcer le P. Vous savez ça. Les Arabes ne prononcent pas le P, alors ils disent Nablouse. Mais en latin, c'était la ville de Naples a donné son nom à Shrem. Et alors, on s'aperçoit que Jacob sait très bien ce qu'il veut. Il cherche un endroit où la ville a rendu le nom à l'homme. Mais la ville s'appelle Shrem. Voilà que ce prince s'appelle Shrem. Son père s'appelait Hamor, c'est encore une autre histoire. Mais alors, Jacob a une perspective très précise. Avec qui, éventuellement, contracter mariage pour fonder la 13e tribu? Et ça sera l'achèvement de l'unité d'Israël et en même temps le lien avec les nations du monde. Sur le point de la civilisation humaine où la ville a déjà rendu les droits à l'homme. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, cette catastrophe qui a commencé avec Hanor, quand on a pris le nom de l'homme pour donner à la ville, elle a déjà son commencement de tikkun, de restauration, à Shrem. L'homme de Shrem s'appelle Shrem. Ah oui, pourquoi c'est Jacob, tiens, essaye cette stratégie d'adopter Shrem comme gendre, bien sûr, en demandant la circoncision, en le convertissant. Mais enfin, c'est un goy qui est possiblement le gendre de Jacob. Ça échoue parce qu'il est quand même barbare. Mais vous voyez cette tentative. Alors, ça vous donne déjà un exemple de la correspondance entre les récits de l'histoire universelle, qui sont les situations humaines que la Torah expose dans la première tentative, la civilisation humaine qui a échoué au déluge, et ces mêmes situations humaines, comment dans la famille d'Abraham, elle trouve la perspective d'une solution. Voilà ce que je voulais vous signaler. Alors, vous étudierez vous-même ces passages, et ça pourra vous donner un premier exemple de cette correspondance. Retenez surtout l'importance des mots hébreux. C'est-à-dire, il est bien évident que ces indications-là, on ne peut pas les percevoir dans aucune traduction. C'est évident. Il faut étudier ça en hébreu. Que Hanor a perdu son nom qui a été donné à la ville, mais que voilà, quand Jacob revient de l'exil, il cherche une ville qui aurait rendu le nom à l'homme. Là, ce serait possible. On voit que ça ne réussit pas, mais ce serait possible. C'est cette situation-là qu'on veut résoudre. Mais, alors oui, l'importance de ce travail qui est dans l'histoire de l'humanité, de la recherche de réinstaurer les droits de l'homme. En France, il y a eu une tentative à la Révolution française qui a une importance très grande historiquement, mais elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'alors qu'il devait s'agir des droits de l'homme, on a cherché les droits de l'homme et du citoyen. Ça veut dire que ces droits de l'homme, on les donne qu'aux Français. Vous avez compris la restriction qu'il y a là. Quoi qu'il en soit, la Révolution française, ça a été un choc dans toute l'histoire de l'humanité et ça a beaucoup séduit, frappé les Juifs. Les Juifs se sont reliés à la France comme si ce Shrem qu'on cherche, il était français. Il s'avère que c'est quand même un barbare, mais c'est quand même en France qu'il y avait cette possibilité que la cité restaure les droits de l'homme et du citoyen. Il y a une espèce de lien un peu mystique entre les Juifs et la France depuis le temps de la Révolution française, quand la Révolution française a donné les droits de citoyen aux Juifs. Et ça nous a coûté cher, parce que c'est le pays de l'assimilation la plus foudroyante. Quoi qu'il en soit, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Vous voyez pourquoi il y a ce diagnostic de la part de l'identité juive, précisément pour des valeurs de ce type. Il faut dire d'ailleurs que c'est René Cassin, qui était un très grand juif, qui a été chargé par la France de rédiger la charte des droits de l'homme pour l'ONU. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ces convergences-là. Vous savez qui a été René Cassin? Je ne sais pas. Ah bon? C'était le dernier des grands présidents de l'Alliance israélite universelle en France. Et il y a Jérusalem, un lycée qui porte son nom, le lycée René Cassin. Bon, vous allez apprendre tout ça avec le biberon israélien. Eh bien, c'est un peu dans ce sens-là que ça s'amorce déjà dans cette préoccupation de Jacob. Où trouver un gendre? Vous voyez comment commence le récit? Edina est sortie pour voir les filles du pays. Elle avait une seule question, avec qui on se marie ici, okay? Parce que Jacob sait que c'est en train de se passer à Shrem de ce temps-là. Quelqu'un voulait poser une question, je crois que c'est toi.
Pourquoi il
voulait
aller chercher à Shrem,
je l'ai
compris.
J'ai pas plus
fort. Pourquoi Jacob il a été chercher
Pourquoi
Jacob il a été chercher à Shrem,
tout là. Est-ce que tu suis bien le texte? En revenant de son exil, nous avons un récit où Jacob, à Shrem, veut arriver à pouvoir marier Dina. C'est ça l'objectif. Tant qu'il n'y a que 12 tribus en Israël, l'histoire d'Israël n'est pas amorcée.